Yves Frié, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous accueillir ici. En ce moment, les éditions Calligramme préparent une anthologie des poètes de Bretagne. Cette préparation, c'est une lecture en quelque sorte silencieuse et il nous a semblé intéressant de venir à votre rencontre pour évoquer les poètes qui vont figurer dans cette anthologie et que vous avez évidemment rencontrés. Alors, est-ce que pour commencer, vous pourriez nous dire où nous sommes? Quel est le lieu que vous avez choisi justement pour les éditions Follavoine?
Le lieu que j'ai choisi est en campagne pour des raisons personnelle, c'est-à-dire que je me plais bien en campagne. Et deuxième raison, c'est aussi des raisons économiques. Hein. C'est-à-dire que quand on a déménagé là, au bout de 10 ans d'une maison où on habitait, on a cherché un peu à gauche, à droite, même une implantation en zone artisanale. Les coûts étaient tels qu'on s'est replié sur une maison à refaire. Donc on a passé un an à retaper une maison. Et puis voilà, l'atelier et la maison sont installés là, à BD.
Alors la création des éditions Follavoine, justement, comment ça s'est passé? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Le premier livre est sorti en décembre 80. C'était un recueil des heures d'Olo, la Venelle des Portes. Dans les années 80, il y avait tout un environnement autour des petites maisons d'édition assez favorable, et puis de libraires aussi, et pour n'en citer qu'un, c'était Bernard Guillemot, entre autres, hein, donc qui aussi était, un peu, j'allais dire, ouvert la voie, tracé le chemin. Hein. Je me souviens des libraires à Brest, Claude Gac, donc Bernard à Quimper, mais il y avait ailleurs aussi à Lannion. Enfin, il y a tout un mouvement comme ça assez favorable. Je dirais ce qui n'est plus le cas actuellement. Et deuxième élément qui a compté pour moi, c'est René Rougerie, que je connaissais, puisque c'est mon éditeur, et avec qui on avait beaucoup parlé d'édition, et vraiment qui m'a encouragé dès le début. Quoi. Voilà, c'est ça. Donc le premier livre, c'est Les Heures d'Olo, rencontré par hasard, parce que j'étais à Saint-Brieuc à l'époque, et j'avais fait une série de ce que j'avais appelé des poèmes affiches. Et je cherchais où les montrer, tout le monde me disait, il faut aller voir Madame d'Olo. En discutant, elle m'a dit, oui, ça m'intéresse. Et puis, de fil en aiguille, j'ai réalisé que j'avais lu ses poèmes dans une revue qui était Solaire à l'époque, et que je les avais aimés. Et donc, on en a commencé à en parler, et puis elle me dit, mais vous n'allez pas faire que ces affiches-là, vous allez faire autre chose. Je dis, oui, je vais lancer une maison d'édition et éditer des poètes. Elle me dit en souriant, moi, je cherche un éditeur. Donc, voilà comment les choses ont commencé, comment j'ai été amené à publier, finalement, toute l'œuvre des Heures d'Olo en une trentaine d'années.
Alors, justement, les poèmes des Heures d'Olo, quand on les lit, on ressent une grande quiétude. Et dans le film, la promesse des mots, elle évoque le moment où elle écrit, c'est-à-dire le matin. Est-ce que la pratique de l'écriture comme une méditation, ça correspondrait pour vous à Les Heures d'Olo? Est-ce qu'on pourrait oser le mot harmonie en pensant à elle?
D'harmonie, j'allais dire, dans la musique et la peinture aussi, en croisant les deux. Les Heures était une grande amatrice de peinture, s'arrangeait à peu près tous les ans pour faire un voyage, pour pouvoir aller voir des musées, pour pouvoir se remplir les yeux.
Vous, en tant qu'éditeur, vous êtes le premier lecteur et vous êtes le premier regard extérieur qui peut être critique parfois et aussi le créateur du futur livre. Quel est votre rôle dans le choix des textes?
Moi, je me suis donné en fait comme consigne un peu, et c'est ce qui m'intéressait, c'est de suivre une œuvre d'un auteur. J'ai préféré axer mon travail sur la poursuite avec les mêmes auteurs parce qu'on voit une écriture évoluer. Alors bon, le rôle de l'éditeur, effectivement, mais je dirais que surtout en poésie, je suis très très peu interventionniste. Mais moi, je crois qu'une œuvre de poésie, elle creuse toujours le même sillon, mais elle le creuse et le poursuit quoi, sur un parcours dans le temps. Je ne me vois pas d'intervention quoi, c'est spécifique, sauf quelquefois, quand on sent qu'il y a quelque chose qui ne colle pas, on le dit tout simplement. Mais c'est un échange aussi. Moi, je crois qu'il faut le voir dans un échange. Moi, je me donnais comme consigne, quand je faisais une remarque, je disais à l'auteur, c'est toujours toi qui décides à la fin. Je m'en remettrai à ton dernier avis. Je me souviens avec Serge Vénin. Il va dire, oui, finalement, tu as raison.
Alors justement, puisque vous parlez de différents auteurs, on se dit que ce genre de relation avec des êtres à fleur de peau, en création, en questionnement, ça doit être toujours intense, donc des échanges entre amitié, passion commune, est-ce que ce sont toujours des rencontres inspirantes?
Inspirantes, tout dépend ce qu'on met dessous. Moi, j'ai quand même cette culture de la rencontre avec une personne, et c'est ça qui m'intéresse dans la poésie, c'est-à-dire c'est de sentir ce que cette personne-là a de particulier à dire. J'ai souvent traduit ça en disant il y a une grande différence entre sincérité et authenticité. On peut être complètement sincère et complètement inauthentique, ce qui peut paraître paradoxal. Et c'est vrai que c'est la rencontre avec la personne, ce ton particulier que va développer la personne qui est intéressant, qui se produit aussi dans la rencontre. Alors effectivement, ça passe aussi par les connivences, mais ça passe aussi par les ruptures. Certains auteurs avec qui le chemin a duré un certain temps, puis s'est séparé tout simplement. Ça, je dirais que dans tout rapport, surtout dans les rapports avec des créateurs, il y a toujours ces moments-là.
Pour notre part, dans le cadre de la composition de cette anthologie, on a vraiment découvert Jean-Paul Amery. C'est un des poètes qui était présent avec vous dès le début. La lecture de cette œuvre, pour nous, c'était vraiment bouleversant de voir des poèmes si denses, sobres, et puis avec une beauté aux racines vraiment profondes. Ça me fait penser à René Char. Les poèmes sont des bouts d'existence qu'on lance à la gueule de la mort. J'aimerais bien en lire un. Après tout ce temps consacré à l'attente, est-il possible encore qu'au détour d'un chemin, sur l'épaule brève d'un talus, soit cueillie aux lèvres des mauves un peu de lumière? Est-ce que vous pouvez nous parler de Jean-Paul Hamery?
Oui, alors Jean-Paul Hamery, moi j'ai découvert son œuvre au départ par une publication dans une revue, la revue de Belles Lettres. En ce qui concerne Jean-Paul Hamery, effectivement c'est une écriture, moi, qui souvent fait peur. On me dit c'est bon, mais c'est dur. Et est-ce que la vie et l'existence n'est pas non plus difficile? Et ça, je crois que Jean-Paul Hamery, alors autant on disait l'harmonie pour Heather Dolo, autant avec Jean-Paul, c'était au contraire creuser, j'allais dire, la disharmonie, la rupture entre un désir de vie et ce que la vie offre. Et moi, j'ai toujours l'impression que son œuvre est à la recherche du paradis perdu. C'est une œuvre extrêmement souffrante, j'allais dire, tout du long, avec en même temps, bon, aussi un rapport à la peinture chez Jean-Paul, qui est la voix comme aussi comme un espace de repos souvent, et d'harmonie justement. Mais c'est quelqu'un qui a recherché, disons, à exprimer toute la difficulté d'être. Et en ce sens-là, la phrase de Char est tout à fait juste. C'est des mots d'existence, des bouts d'existence lancés à la mort, quoi, à la gueule de la mort. Et donc là, j'étais amené à publier, mais aussi avec Jean-Paul Hamery, quasiment toute son œuvre à partir du moment où on a commencé à travailler ensemble. Et dire, quand on parlait des relations, effectivement, c'est quelqu'un avec qui les relations n'ont jamais été simples, ont été amicales, très fortement amicales, mais aussi avec ses exigences. C'est quelqu'un d'assez intraitable à certains moments, mais bon, il savait pourquoi aussi, quoi.
Alors, vivre en amitié et rencontrer des poètes, c'était un aspect. Vous vous souvenez peut-être dans un recueil d'entretien de Guilvic qui s'intitule « Vivre en poésie », il y a le fameux « Habiter en poète ». Et il y a aussi le fameux « Habiter en poète » de Hölderlin. Et vous, c'est quoi vivre en poésie?
Difficile d'y répondre. Je ne sais pas si on vit en poésie, moi je dirais on vit. Et le poème vient. Et c'est vraiment ça qui, pour moi, compte. C'est-à-dire que c'est un peu une critique que je fais souvent, moi, à la poésie contemporaine, entre guillemets. C'est cet aspect du formalisme. Et on ne sent plus la vie derrière, on ne sent plus la patte humaine. Et je crois que c'est d'abord vivre. Hein, vivre en poésie, c'est d'abord vivre, tout simplement.
Vous êtes imprimeur et typographe, vous êtes éditeur de poésie, mais vous êtes aussi poète. Vous avez choisi comme nom des maisons d'édition Follavoine, un nom de plante. Vous aimez vous attarder dans les enclaves de la civilisation rurale. Vous êtes sensible aux moissons, au labour, au talus, à la présence des animaux dans les hangars de ferme, à l'ensilage. Tout un monde qui semble aujourd'hui de plus en plus éloigné des villes. Alors j'ai envie de vous poser comme question, est-ce que votre poésie s'inscrit dans une géographie?
Oui, le lieu est essentiel, hein, j'allais dire. Je dirais que c'est ce rapport à la nature aussi, je m'en méfie. Bon, il faut aussi savoir qu'est-ce que ça veut dire, et c'est une perpétuelle question. Quel rapport on entretient à la nature? Qu'est-ce que la nature, j'allais dire, dit de nous? Voilà, c'est surtout ça qui est important. Vous parlez de Follavoine, du mot Follavoine, oui, j'allais dire c'est un peu une boutade en même temps, et c'est... La Follavoine, ça pousse sur les talus, la poésie pousse un peu comme elle peut, où elle veut, où on la laisse pousser. Et c'est vrai que la Follavoine, on ne laisse pas souvent pousser par les temps qui courent. Mais bon, c'est ce jeu-là. Mais en même temps, est-ce que je prendrais le même nom aujourd'hui? J'en suis pas sûr. Bon, je pense qu'on vit dans un lieu. Ouais, c'est ça. Je crois qu'on vit dans un lieu. On se nourrit de ce lieu. Et en même temps, il faut le dépasser.
Et justement, les lieux ne sont pas nommés dans vos poèmes. Est-ce que les lieux, pour vous, sont liés à la mémoire de l'enfance?
Ah oui, complètement. Effectivement, je crois qu'on... Ouais, quand je parlais de paradis perdu tout à l'heure, est-ce qu'on n'est pas toujours à la recherche du paradis perdu de l'enfance, même si je n'idéalise pas l'enfance, parce que l'enfance est dure aussi. Mais il y a un rapport de retrait, j'allais dire, de solitude qui est possible dans l'enfance, qui est peut-être moins possible quand on est adulte. Et, enfin, moi, c'est ce que j'ai vécu, en tout cas. Un espace pour rêver. Hein, je crois que c'est ça, en ce sens-là aussi, que l'enfance nous est chère, dans la mesure où ça nous a été offert aussi. Quoi. Enfin, on a pu le développer.
Vos poèmes semblent écrits par série, quelquefois introduites par une courte prose ou une citation, là notamment dans un de vos derniers livres, L'éveil du scribe. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la composition de vos recueils? Et est-ce que, sur le plan formel, l'éditeur que vous êtes aussi a une influence sur le poète? N'est-il pas tenté de lui imposer ses normes?
Effectivement, moi j'écris par série, c'est-à-dire qu'il y a un moment, je ne sais pas pourquoi, il y a une série de poèmes, pas forcément très longues d'ailleurs. Quand je sens qu'il n'ira pas plus loin, on passe à autre chose, quoi. C'est autre chose qui vient. Et moi je crois ça, hein, un recueil de poésie pour moi n'est pas la mise à la suite les uns des autres de différents poèmes. Il y a une architecture qui n'est pas toujours facile et qui n'est pas forcément toujours réussie. Moi je ne prétends pas avoir réussi à tous les coups. Mais composition de l'ensemble qui compte, oui, et qui va donner comme un chemin au lecteur, un chemin qu'il va suivre, et puis dans lequel j'espère il se retrouve, quoi.
Est-ce que l'éditeur que vous êtes a une influence sur le poète?
C'est la bagarre, ben oui, effectivement, parce que quand j'écris, je me dis c'est pas la peine de dire ce qu'on dit les autres, déjà. Il faut peut-être penser quand même à ne pas être toujours dans les mêmes eaux, et de savoir aussi ne pas que voir son propre univers. Et puis le poète, quelquefois, dit à l'éditeur, un peu de place pour autre chose. Mais c'est intéressant, cette tension-là. En même temps, moi, ça m'intéresse parce que, justement, il m'oblige à une certaine rigueur dans l'écriture à éliminer, par exemple, ce qui est de la redite ou ce qui, inconsciemment, et finalement, je m'aperçois que c'est une copie de ce qu'a dit un autre. Hein. Ça, c'est et c'est pas facile, quoi. Donc, c'est toujours un peu un rapport en tension, mais bon, je crois que beaucoup de ces éditeurs poètes l'ont vécu, hein. Je pense par exemple à quelqu'un comme Guy Lévis-Manot, hein, qui a été aussi dans ce cas-là. Alors quand je parle de lui, c'est parce que aussi, pour moi, c'est une référence, quoi. C'est une image qui a compté.
Pour prolonger un petit peu ce que vous dites, quand on regarde votre catalogue, vous avez publié beaucoup de poètes où chaque mot porte son poids en quelque sorte, où l'écriture est souvent concise. Et chez vous-même, la plupart de vos poèmes tiennent sur une page. D'où vient le chant de votre poésie? Est-ce qu'il y a de la place pour des cantiques, pour de la musique profane?
Oui, effectivement, c'est de la recherche d'une concision. Bon, je le sens bien, il y a les influences. Hein. On a vécu une époque dominante Guilvic Char, hein, donc c'était pas spécialement des bavards. Comme avait dit Guilvic, j'avais vu, il m'avait dit « Qu'est-ce que vous voulez? On me reproche d'écrire court, je suis asthmatique. » Bon, je dis ça aussi parce que je crois qu'on écrit avec son souffle. Hein, c'est-à-dire que chacun a un rapport à la parole qui lui est propre. Je crois que c'est ça l'important, c'est de trouver son ton juste, son ton à soi. Voilà. Et ça veut dire aussi se dégager, effectivement, d'un certain nombre d'influences. Puis ça dépend des moments aussi. Hein. Donc si on a un peu de temps, on va être un peu plus bavard. Si on a peu de temps, on va aller au concis tout de suite. Quoi. Voilà. D'ailleurs, ça m'est arrivé, c'était une expérience assez amusante d'ailleurs. J'ai écrit un poème qu'on retrouve dans un recueil, mais qui était un peu divisé par la mise en page, mais qui pour moi est un seul poème. Et c'est tout simplement, je m'étais cassé le pied. Donc je pouvais plus rien faire, et là j'avais le temps. Mais je dis ça aussi parce que l'écriture poétique est liée aux circonstances. Hein, c'est-à-dire que, tiens, il y a un truc qui vient, et puis on n'a pas beaucoup de temps. Alors après, ça ne veut pas dire que tout vient comme ça, et puis c'est cuit. Après, il y a le travail de reprise, il y a le travail de recreuser le sillon. Quoi. Mais je dirais que... On a un ton et on a un temps disponible et on fait avec.
Oui, c'est vrai qu'on ressent cette unité de ton dans vos recueils et même depuis les premiers jusqu'aux plus récents. Est-ce que ce fil conducteur, justement, entre ces différents ouvrages, est-ce que c'est le signe d'une résistance?
Sûrement. Résistance à quoi? Ça aussi, c'est une question qu'il faut se poser. Moi, je crois qu'on est toujours à la recherche de quelque chose qu'on n'a pas, qu'on voudrait avoir et qui se trouve effectivement, et c'est là où je trouve que la poésie a un rôle quand même important, qui se trouve en contradiction finalement avec tout ce que la société nous propose comme modèle dominant. Là, je crois qu'il faut être clair là-dessus, quoi. Je dirais que pour moi, alors là, pour le coup, entre l'écriture et l'édition, c'est la même chose. Hein. C'est-à-dire que c'est le même... Puis là, je vole encore quelqu'un, c'est Rougerie, hein, qui dit l'édition de poésie, c'est une édition de résistance. Hein, voilà. Il savait ce que ça voulait dire dans son cas, parce qu'il était quand même résistant à 18 ans pendant la guerre. Quoi. Donc ça aussi. Mais c'est vrai qu'on est toujours en décalage. Je crois que c'est ça la richesse. Et quand on me dit, oui, les petits éditeurs, c'est difficile, etc. Oui, mais... On ne va pas rêver de gloire et d'argent alors qu'on s'inscrit dans une résistance, ça c'est clair.
J'ai vraiment remarqué en tant que lecteur que vous avez un ton qui vous est propre. On devine d'autres poètes, des poètes que vous avez édités, des poètes que vous avez lus. On a cité tout à l'heure Eugène Guilvic, rencontrer par certains moments Angèle Vanier également, que lorsque vous parlez de Pierre Levé, des menhirs, de l'incandescence de la nuit. Est-ce que la mission du poète pour vous, c'est d'éclairer la nuit justement?
Et dire au départ, c'est de s'éclairer par rapport à lui-même, mais en même temps, à ce moment-là, on éclaire l'autre. On ne parle qu'à partir de soi, et j'allais dire que de soi. C'est ce soi-là aussi, il a une part d'universel, et c'est ça qu'il faut aller chercher. J'allais dire, pour moi, c'est toujours un peu le côté mystérieux de l'écriture. C'est-à-dire ce qui vient de soi et qui, finalement, va gagner une certaine forme d'universalité. Enfin, j'espère, on va toucher au moins quelques-uns. D'ailleurs, tout le monde ne va pas aimer les mêmes poèmes, heureusement. Mais va aller en toucher d'autres là où effectivement, aussi, ils ont une sensibilité qui est ancrée et leur permettre de se révéler à eux-mêmes leur propre sensibilité. C'est toujours dans ce mouvement-là. C'est-à-dire, on part de soi. Hein. Finalement, l'écriture est un acte égoïste au départ, quand même. Quoi. Et qui peut être très complaisant. Donc, voilà. Mais c'est ça. Justement, c'est ça le travail d'écriture. Hein. C'est le travail de recherche des lignes. D'élimination aussi peut-être de choses trop faciles, du sentiment, hein, justement, le sentiment. C'est ça, quand je parlais de sincérité tout à l'heure, si on reste au sentiment, on est dans la sincérité. Est-ce que c'est ça l'écriture? Est-ce que c'est ça qu'on a vraiment à dire? Je vois beaucoup de poèmes qui sont parfaitement sincères, et je ne mets pas en cause cette écriture-là aussi, je ne la méprise pas, mais ce n'est pas une écriture qui va passer à l'édition. Simplement, on peut écrire pour soi, et on le fait toujours d'une façon ou d'une autre. Et puis après, qu'est-ce qui va passer dans le livre, ça c'est autre chose.
Pour clore cet entretien, vous avez accepté de nous lire deux poèmes publiés dans les veilles du script. Yves Prié, nous vous remercions.
C'est moi qui vous remercie. Où sont tes mots, scribe, dispersés dans le sable? Tu demandes au silence une trace familière. Dans ta solitude, tu rêves de l'éponge qui laverait tes doutes et les peurs de ce monde ancien. Tu reviens à la ville, porteur de mots nouveaux. Le désert a enrichi ta mémoire. Le souvenir des compagnons évanouis germe de désirs neufs et te lave des douleurs inutiles. Que l'aile de l'oiseau éveille l'oracle. Je dirais les mondes enfouis, les guerres, les soleils éteints, l'assaut des marées dans la rage du temps. Rien n'échappera à mon stylet, il n'est plus l'heure d'inscrire les troupeaux, les récoltes. Le monde va trop vite. L'homme a oublié la paix des plaines. L'air glacé et les sommets ont réveillé l'acide de ses dents. Mordre le fruit est trop doux, il lui faut d'autres nourritures. Le sang des butins a d'autres saveurs. Je n'oublierai pas les corps violés, dépecés, les pleurs de la mère et de l'amante. Les livres n'y suffiront pas. J'inscrirai le sang à même le sol des chemins. J'écrirai le passage, les mots du silence, où vient échouer le fracas des séparations. L'absence rendra le poids de son vide, la phrase se fera dure. Des bribes du passé, ne reste qu'une amande sèche, avare de son suc. Je n'oublierai pas cet hiver où l'acier du gel creusa ses sillons.
Merci beaucoup.